Puis au début de la pandémie, on savait pas, hein, tu sais, ce qui allait se passer. Puis là, il y avait le port du masque, puis les éducatrices avaient le masque. Ensuite, il y avait une visière, il y avait des gants, il y avait des thermomètres. Puis pour les enfants, c'était quand même assez intimidant.
En quelques jours à peine.
Ouais, et puis l'idée, c'était avec le jeu, avec les animaux, c'était d'aider, dans le fond, les éducateurs à sensibiliser les enfants, tu sais, à les aider à comprendre, dans le fond, les règles. Caroline Lebeau, de Regard Neuf. Alors aujourd'hui, on va parler des livres, des jeux, particulièrement d'une initiative qu'on a faite durant la pandémie.
Bonjour, bienvenue au projet Simplement Audacieux, un podcast où l'on fait ressortir les histoires d'entrepreneurs d'ici. Inspirants, authentiques et persévérants. Découvrez les hauts et les bas qu'ils ont vécus.
Simplement Audacieux est un projet de Lavalinov, animé par François Bilodeau
et Ève Lacourcière.
Merci Caroline de nous recevoir aujourd'hui à ton entreprise, c'est vraiment très apprécié.
Merci, ça me fait très plaisir. Comment ça a démarré, Regard Neuf? Je faisais de l'aide aux devoirs avec des enfants qui avaient des besoins particuliers ou non. Et puis, un jour, il y a un des jeunes qui m'a dit « Caroline, aujourd'hui, j'ai voulu tuer un ami ou le frapper. » En tout cas, c'était très violent. Et ensuite, j'ai demandé à mon jeune de m'expliquer dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'était passé. Je voulais qu'on en parle, évidemment. Et il m'a expliqué qu'il y avait un ami à l'école qui s'approchait beaucoup de lui, qui voulait le toucher, qui voulait jouer avec lui, mais il parlait pas. Puis lui, il était très intrigué par son comportement, puis ça lui faisait peur. C'est souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas. Donc, à ce moment-là, c'était l'intégration des enfants avec des besoins particuliers dans les classes régulières ou dans les cours d'école. Puis, parfois, pour quelqu'un qui a moins l'habitude de côtoyer la différence, bien, ça peut être un choc, puis il peut voir ça comme une menace. Donc, à ce moment-là, en fait, j'étais à HEC Montréal et puis il y avait des cours d'entrepreneuriat pour faire des projets. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant puis je me suis inscrite. Et à ce moment-là, je me suis dit, on pourrait faire des livres où on va intégrer des personnages qui sont diversifiés. Comme ça, on va sensibiliser les enfants. Puis, ces enfants-là, des fois, ils se retrouvent pas dans la littérature jeunesse. Par exemple, ceux qui sont en fauteuil roulant ou ceux qui peuvent avoir des comportements plus stéréotypés ou bien ceux qui parlent avec la langue des signes. Alors, à partir de ce moment-là, on a développé des livres, des histoires imaginaires, parce qu'on voulait que tous les enfants soient des héros. Et ça leur a permis de faire des beaux moments dans les classes. En fait, il y a un enfant qui avait un trouble d'apprentissage et puis il voulait pas lire en classe. Et un jour... quand il a vu le livre « Les champions au parc d'attraction », il a vu qu'il y avait un personnage comme lui. Et puis là, il s'est mis à lire avec le psychologue, l'orthophoniste, et puis ensuite avec la prof, puis en classe. Donc juste pour ça, ça valait la peine d'écrire.
Ça, c'est l'exemple concret que la littérature peut changer les gens, les enfants, les plus grands et tout. Là.
Clairement. Wow. Mm-hmm. Wow. Donc, les livres, puis ensuite, on a conçu des guides. Parce que souvent, on veut en parler. On veut parler de la diversité, puis qu'il y a des enfants qui peuvent parfois agir autrement ou qui ont besoin d'un environnement adapté à leurs besoins. Donc, l'idée, c'était de faire un guide en collaboration avec plusieurs partenaires pour sensibiliser à la différence. Donc, c'est important d'avoir des parents, des professionnels, des enfants qui nous expliquent c'est quoi leur réalité.
Puis initialement, tu dis que tu étais au HEC, donc c'est parti d'un projet universitaire.
Monsieur Claude Ananou, j'avais eu un cours création innovation.
C'est un professeur à HEC.
Oui, exact. Okay. En entrepreneuriat, il a écrit les livres. Et puis, il m'a beaucoup inspirée. Puis je trouvais ça intéressant. Puis j'ai comme un peu, je pense beaucoup d'intrapreneuriat. Je faisais beaucoup de projets. Mais là, je me suis dit, je pourrais avoir mon propre projet. Et puis, je pourrais le bâtir avec une équipe intéressante, diversifiée, où nos compétences sont complémentaires. Et puis c'est là que j'ai pensé à l'idée de livre pour sensibiliser le jeune avec qui je travaillais. Puis qu'il y avait un petit peu plus de difficultés avec la différence, la diversité.
Quand tu dis « on a fait un livre », avec qui tu collaborais à ce moment-là?
Deux éducatrices spécialisées et puis également quelqu'un au niveau artistique pour faire les dessins. Et puis, on avait aussi, quand on a créé les livres à ce moment-là, des personnes en situation de handicap, en fait, qui nous ont aidés à trouver des idées pour les histoires. Et puis, en fait, c'était une belle façon de sensibiliser mon jeune à la diversité. Parce que... j'ai dit, hey, tu vas rencontrer mes amis, puis tu vas voir, ils sont vraiment géniaux. Puis au début, ils voulaient pas, parce que là, ils étaient différents. J'ai dit, écoute, on le laissait, puis tu vas voir si t'apprécies ton expérience, on va continuer. Si t'aimes pas ça, on va arrêter. Et puis là, à la fin de la première journée, il a dit, mais Caroline, qu'est-ce qui est différent ici? Dans le fond, tout le monde est différent, puis tout le monde était gentil. Fait que ça lui expliquait que, dans le fond, il était avec des gens de la diversité, avec des gens avec des déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme ou autres situations de handicap. Et puis par la suite, il s'est même mis à aider les amis à l'école qui avaient de la difficulté avec la motricité fine. Donc, il prenait des notes pour les autres amis ou il ouvrait la porte à ceux qui étaient en fauteuil roulant. Puis, il avait même gagné un méritas à la fin de l'année parce qu'il était sensibilisé, on y avait expliqué, puis c'était valorisant pour lui aussi d'aider les autres.
Au départ, c'était plus un projet pour rendre service, c'était pas nécessairement pour générer des profits.
Bon, on le faisait, on voulait développer une entreprise, on voulait, même si on s'était fait dire, des personnes en situation de handicap, c'est pas nécessairement profitable, et puis, dans le fond, tu sais, qui est-ce qui va s'intéresser à de la littérature comme celle-là? Et puis, ben, ça m'a encore plus engagée dans le projet, parce que je me disais, ben, justement, il faut qu'on en parle, puis il faut qu'il y ait une diversité, au niveau des livres, puis au niveau des jeux, puis c'est important, en fait.
C'est qui vous disait ça, que c'était pas, qu'il y avait pas de clientèle?
Parfois dans différents jurys ou, mais probablement que c'est des gens qui étaient eux-mêmes pas nécessairement sensibilisés. Et puis, au niveau, ils voyaient pas l'intérêt, dans le fond, de la diversité.
Parce que c'est pas un modèle tant commun, le regard neuf et l'entreprise et le type de service que vous offrez. Est-ce que je me trompe?
Non, effectivement, on a aussi, on voulait que ça soit accessible en fait. Donc, avec Valérie Kempa, qui est ergothérapeute et maintenant bibliothécaire, qui a fait la collection Ergo Édition, dont La Marche des animaux, qui a gagné entre autres un concours québécois en entrepreneuriat. Elle a gagné aussi un prix de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. En fait, on voulait rendre ça accessible, faire des jeux pour les enfants, pour qu'au quotidien, ils développent leur motricité fine, parce que des fois, ils peuvent avoir des retards au niveau du développement. Les enfants avec des besoins particuliers, il y a un enfant sur cinq au Québec qui est en situation de handicap ou qui a un trouble d'apprentissage.
En quelle année, donc, vous avez créé Regard Neuf?
Le premier livre est apparu au début de l'année 2015. Donc, par la suite, on a produit des guides, des histoires imaginaires, ensuite les livres en ergothérapie, et puis des livres plus spécifiques aussi là au niveau des émotions, ou bien expliquer aux enfants, là, comme on parlait, le deuil, qui peut être un sujet quand même assez abstrait, donc pour un enfantiste, donc d'essayer de mettre des mots très clairs sur des sujets d'actualité.
Puis regard neuf, ça s'écrit regard avec le chiffre neuf.
Regard neuf pour avoir un regard nouveau en fait, pour voir ou faire les choses autrement par rapport à l'autre ou par rapport à soi.
Qui a eu l'idée du titre?
Travail d'équipe, hein, je pense. On réfléchissait à des noms et puis c'est regard neuf qui est apparu. Donc regard neuf. C'est sûr que dans le contexte actuel, avec la pandémie, ben ça nous a amené à faire des nouveaux projets. Donc on a fait entre autres une trousse pour sensibiliser à la distanciation sociale et puis aux mesures d'hygiène. Donc cette trousse là, quand on l'a fait, on s'entend, on a fait ça quand même assez rapidement. On s'est mobilisé toute l'équipe. On a appelé nos différents partenaires pour l'impression, l'infographie. En 6 semaines, on avait une trousse prête pour soutenir là, les familles.
Ça, c'était au début de la pandémie, donc en mars 2020?
Exactement.
OK. Donc, un pivot très rapide. 6 semaines, les conditions changent, il faut sortir notre bord, il faut livrer du nouveau matériel.
Tout à fait, parce qu'on avait constaté, tous ceux qui travaillaient avec les enfants, que eux, ils disaient, mais comment on explique aux enfants qu'avant, on leur disait, c'est important de partager tes jouets, puis de faire des colleux aux enfants, puis maintenant, c'était, non, faut garder sa distance, faut plus prêter ses jouets. Donc, il y avait des règles qui avaient changé, en fait, puis au début de la pandémie, on savait pas, hein, tu sais, ce qui allait se passer, puis là, il y avait le port du masque, puis les éducatrices avaient le masque, ensuite, il y avait une visière, il y avait des gants, il y avait des thermomètres, puis pour les enfants, c'était quand même assez intimidant.
En quelques jours à peine.
Oui, et puis l'idée, c'était avec le jeu, avec les animaux, c'était d'aider, dans le fond, les éducateurs à sensibiliser les enfants, t'sais, à les aider à comprendre, dans le fond, les règles, puis pourquoi, pourquoi c'est important aussi. À ce niveau-là, on avait conçu cette trousse-là parce qu'on avait eu cette demande-là, en fait.
Vous en avez vendu au Québec?
Oui,
mais aussi outre-mer, hein, je pense.
Oui, ben en fait, nos livres sont en version numérique. Okay. Et puis donc au niveau des livres, effectivement, on en va partout dans le monde francophone parce qu'actuellement ceux-là ils sont pas traduits. Mais tout à fait. En fait, il y a certaines parties au niveau des affiches. Celle-là en France, par exemple, le lavage de main c'était 30 secondes, nous c'était 20 secondes. Donc effectivement,
les normes de santé publique sont pas les mêmes partout.
Il aurait préféré qu'on inscrive 30 secondes, okay. Mais nous ici au Québec c'était 20 secondes, donc.
Puis, la première fois que tu m'as parlé de ce projet-là, des outils, je me souviens aussi, c'est des pattes d'éléphant, je pense, qu'on peut mettre par terre là pour
exactement. Se positionner. Pour justement se positionner au niveau de la distanciation, puis les flèches au niveau de la circulation.
Ça venait des animaux que vous aviez déjà créés précédemment. Hein?
Exactement, parce que les enfants s'étaient attachés, puis ils connaissaient ces animaux-là, puis aussi les éducateurs, dans le fond, qui utilisent ce matériel-là au quotidien.
Dans la majorité des CPE, mes enfants sont plus grands, donc je fréquente plus les CPE, mais... Dans la majorité des CPE, il y a des produits de regard neuf, si je comprends bien.
de façon variée, que ce soit les guides ou que ce soit la nappe. En fait, la nappe, ça, c'est vraiment l'histoire là, de la pandémie, parce que avant la pandémie, on allait sortir une jolie nappe avec une série de 12 animaux, là, un à côté de l'autre, là, pour que les enfants travaillent ensemble, puis se partagent les crayons. Puis
autour de la table.
Et puis apprennent à faire des demandes, tu sais, à un ami, par exemple, peux-tu me prêter le crayon rouge, tu sais, en partageant. Et puis, en fait, c'est des dessins d'animaux où on augmente le niveau de difficulté, puis on l'a fait en partenariat avec BIMO, les nappes, et puis Educazoo. Et ben en fait, on s'en allait faire le lancement là à la fin mars, gros lancement. Oh, on était vraiment heureuses de notre produit, une belle nappe avec trois partenaires québécois. Et finalement, ben en fait, il a fallu reporter tout ça parce que à cause des mesures
d'hygiène. Non, ça n'aurait pas passé.
Non, on avait une nappe en tissu. Et puis en plus, ben les enfants, l'objectif c'est qu'ils étaient un à côté de l'autre partout autour de la table, mais ce n'est que de partie remise.
Est-ce qu'elle a été produite, la nappe? T'as-tu comme plein en stock en ce moment?
Oui, j'en ai en stock. Il y a quand même des ventes actuellement. Okay. C'est certain que les enfants sont plus distancés.
Ouais. OK.
Ouais, il y a peut-être moyen de récupérer, mais comme tu le dis, ces valeurs-là vont revenir. Là. J'ose croire qu'on va réapprendre, on va continuer d'apprendre aux enfants de partager puis d'échanger, sinon le monde va être trop triste.
C'est clair. Effectivement.
On se fie sur vous pour leur apprendre, vous aider à leur apprendre.
Donc, HEC 2015, début de Regard Neuf, un partenariat avec plusieurs corps de métiers spécialisés dans l'intégration des enfants, la motricité, etc., et l'implication de personnes vivant avec des handicaps, principalement des enfants.
Là, oui,
tu hoches de la tête, tu opines de la tête.
Oui.
Et bon, le début de l'aventure Regard Neuf. Moi, ce qui m'avait marqué dans ton parcours quand on a fait connaissance, Caroline, c'est que je pense que tu ne faisais pas que ça à temps plein.
Oui, ben c'est sûr que les enfants, je les ai vus grandir, je les ai vus évoluer. Donc, ils sont passés des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Donc, ils sont arrivés dans le milieu du travail. Donc, comment leur faire vivre des premières expériences de stage, des premières expériences d'emploi? Je me suis dirigée de ce côté-là, en fait, pour faire de l'intervention comme conseillère en services adaptés dans des cégeps, entre autres. Aussi, j'ai donné des conférences et j'ai fait de l'accompagnement en entreprise pour sensibiliser puis aider à mieux comprendre les différences individuelles. Et ce qui m'a amenée, en fait, à poursuivre mes études vers le doctorat pour trouver des stratégies pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Également, en fait, je crois beaucoup à la sensibilisation, à la prévention. Et puis, j'ai créé la tournée éducative. En fait, la tournée éducative est un OBNL. C'est des conférenciers en situation de handicap qui vont dans les écoles pour parler de leur diversité. Donc, on a Valérie qui a été aux Jeux olympiques spéciaux à Los Angeles. Elle a remporté des médailles. Il y avait 5000 athlètes de partout à travers le monde. Et également, elle a des photos avec Justin Bieber. Elle a des médailles. Fait, quand elle arrive devant la classe, tu sais, moi, je peux parler de diversité devant des jeunes enfants. Mais Valérie, tu sais, qui a une déficience intellectuelle, puis qu'elle a fait des choses extraordinaires aussi, là.
Wow.
Tu sais, elle a voyagé.
Super modèle.
Super modèle, définitivement. Puis elle dit vraiment aux enfants, là, la persévérance, c'est important. Puis il faut aller de l'avant. Vous êtes capables. Puis croyez en vous. Puis c'est un beau message à leur donner aussi. Puis elle parle aussi des moments où elle a eu plus de difficultés, où elle a peut-être vécu de l'intimidation, où elle a eu de la difficulté à se faire intégrer dans les groupes. Mais comme elle mentionne, tu sais, ça l'empêche pas d'être heureuse, puis il faut aller de l'avant, puis il faut s'apprécier comme on est. Donc, c'est un message qu'on voulait envoyer. Les livres, c'était un levier, mais les conférences comme ça, c'en était un autre qu'on trouvait très important.
Il y a un impact autant sur les personnes qui vivent avec un handicap, les enfants, que ceux qui les entourent pour créer de l'acceptation puis de la tolérance à la différence.
Exactement, parce qu'on a tous des besoins à un moment ou à un autre. Hein. On est tous, mine de rien, propice à être en situation de handicap, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Donc, essentiellement, je pense que c'est gagnant pour tout le monde quand il y a des adaptations ou l'accessibilité universelle.
Comment ça t'est venu, cette sensibilité-là, aux personnes qui ont des défis plus importants dans la vie?
Ben, je cherchais un emploi dans le domaine de la santé. J'ai ouvert mon courrier Laval. J'ai vu une fondation avec des enfants, avec des besoins particuliers pour des répits ou des activités de jour. Et puis, ça m'a interpellée parce que j'avais regardé pour d'autres types de clientèle au niveau de l'intervention. Donc, moi, les premiers enfants que j'ai rencontrés, là, c'est des enfants avec des besoins particuliers. Puis quand j'ai vu un enfant qui n'avait pas de besoins particuliers, je le trouvais différent. Mais en fait, j'ai toujours... été avec ces enfants-là. Puis, tu sais, comme tous les autres enfants, ils sont extraordinaires. Tu sais, il faut juste leur donner leur chance. Puis, au niveau des compétences, puis c'est très variable aussi au niveau de leurs acquis. Puis, au niveau de leur force ou au niveau de leurs difficultés, mais je pense que quand on vise ce dans quoi ils sont bons, ils ont une bonne fierté, un peu comme tout le monde, hein, ils ont besoin de reconnaissance puis d'être appréciés pour ce qu'ils font.
Mm-hmm.
Tantôt, on a fait une visite avec toi, tu nous montrais les articles promotionnels, puis ce que j'aimais beaucoup, c'était l'aspect aussi d'éduquer les gens qui entourent les enfants ou les parents avec des parents d'enfants avec des défis particuliers. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Je voudrais que tu m'en parles un peu plus. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette stratégie-là aussi, ou peut-être c'était clair dès le départ? Mais...
Je pense que justement, c'était une mission qui avait un impact sur à la fois le parent ou l'enseignant ou l'éducateur. Tu sais, on a tous des connaissances à partager, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a une formation sur le trouble du spectre de l'autisme. Et puis, tu sais, l'idée des guides était vraiment de le faire de façon très simple. Et je pense que c'est la raison qui avait fait en sorte que Monsieur Mitch Garber, quand on a été à l'émission dans l'œil du dragon, a participé, a contribué à Regard Neuf. Il nous a fait une offre, puis on a collaboré ensemble parce qu'il trouvait que l'idée était intéressante de pouvoir avoir un impact sur tous ces gens-là en même temps par un produit qui est simple, coloré et vulgarisé.
Attends, vous avez fait l'œil du dragon en quelle année?
En 2016.
En 2016. Ouais. Comment t'as vécu ça? Ça devait être stressant.
Absolument, mais vraiment une belle expérience, sérieusement, qu'on a eue sur le plateau. On a été vraiment bien accueillis. C'était stressant, on savait pas ce qui allait sortir par la suite. Mais Valérie Kempa et moi, on s'est dit, il faut l'essayer.
Ah oui.
Et puis, ça l'a bien été, comme on a mentionné. Et puis, ça l'a procuré, ça nous a permis de nous faire connaître davantage. Okay. Ça nous a donné un élan aussi, hein, de voir que des gens comme ça, de l'externe, croient en nous, en notre produit. Ça nous a fait rayonner quand même là, beaucoup au Canada.
Regard Neuf avait un an à l'époque seulement.
Oui, c'est ça. On avait pratiquement deux ans là, dans le sens où c'était okay. Les premiers produits.
La rencontre avec Mitch Garber, qu'est-ce que ça vous a aidé?
Parce que ça nous a aidé.
Je veux juste dire que Caroline a un immense sourire présentement.
il nous a donné beaucoup de conseils, mais en fait, ce que j'ai le plus apprécié, c'était le fait que je pense que c'est un homme d'affaires assez occupé.
Ouais.
Et puis, il était tout à nous, là. Il
n'y
avait
pas
de téléphone cellulaire. Il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, qui prenait des notes. Puis, tu sais, il se retournait vers lui, bon, pour lui demander de faire tel contact. Mais il était vraiment... Sa présence...
Complètement engagée.
Complètement engagée. Ça m'a fascinée de voir...
Oui, mais je crois que vous avez passé par le programme Recru, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Donc, tout à fait. Donc, on a été au centre de formation Paul-Émile Dufresne pour démarrer l'entreprise. Et on s'est engagé là au niveau du programme Recru Communauté Laval, ce qui a été très, très apprécié. Puis également, au tiers-lieu, en fait, on a suivi un programme de formation, là, gérer son entreprise en temps de crise. Donc, ça a été super apprécié. Ça aussi, ça a été un bon support pour nous.
Recru, moi je le connais, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le programme, comment ça fonctionne?
Absolument. En fait, c'est une communauté d'entrepreneurs lavallois. Et puis, on est accompagnés et il y a plusieurs activités de co-développement, des conférences. Alors, ça nous permet de réseauter et on est soutenu là par des gens là qui sont des professionnels dans différents domaines, des experts au niveau du marketing, du financement ou autre.
On a passé vite fait tantôt sur le sujet de ton doctorat, mais moi, j'aimerais y revenir. Tu as commencé ton doctorat en quelle année?
J'ai commencé en 2018, mon doctorat, en 2020, donc je suis dans ma troisième année. J'entrevois le faire en 5 ans, idéalement, et essentiellement, c'est certain qu'avec la pandémie, mais ça l'a ralenti parce qu'il a fallu que je retravaille tout mon questionnaire, étant donné qu'il fallait que je l'adapte, sinon je pense que ça n'aurait pas été la bonne chose, j'aurais mesuré. Donc, il y a eu un petit ralentissement. Je pense que comme tous les autres étudiants, au niveau, même bien que je sois passionnée par mon sujet, au niveau de la motivation, le fait d'être loin de l'université, d'avoir moins de contact avec la communauté universitaire, les congrès qui avaient tous été annulés, je pense que ça va avoir eu un impact sur beaucoup de jeunes. Et puis, ça m'a amenée à travailler sur un projet, en fait, au niveau des jeunes adultes sur la santé mentale. Et puis, la réaction à la pandémie, parce que souvent, ils sont dans un processus identitaire. Okay. En fait, ils vont être en transition vers la vie adulte. Et puis, c'est eux, selon les recherches, qui éprouvent le plus de difficultés. Donc, essentiellement, avec l'Université de Montréal, puis plusieurs partenaires, on a développé des ateliers, des conférences pour leur permettre d'échanger ensemble, d'exprimer ce qu'ils vivent.
Ce podcast est commandité par Planet Hoster. Saviez-vous que la localisation de votre site web joue sur son référencement dans les moteurs de recherche? Pour les entreprises québécoises, Planet Hoster dispose d'une infrastructure de qualité à Montréal, favorisant le référencement de votre site web. Cela vous permettra de gagner des visiteurs sans dépenses publicitaires additionnelles. Planet Hoster, hébergez votre monde.
Quand on parle de santé mentale, moi, ceux que j'ai côtoyés, je sais que tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est sortir de la zone de confort, ça peut créer énormément d'anxiété. Donc, je peux comprendre que d'avoir un horaire flexible, d'être à la maison, d'être bien installé, ça peut vraiment beaucoup diminuer l'anxiété. Mais est-ce que c'est pas un couteau à deux tranchants dans le sens où est-ce que s'ils vivent trop ce confort-là, est-ce qu'ils risquent pas d'avoir encore plus de difficultés après à sortir de leur zone de confort?
Ben, je pense qu'il y en a beaucoup, santé mentale ou pas, en ce moment, au retour de la COVID, qui voudront peut-être pas retourner sur les milieux de travail ou peut-être pas à temps complet. Donc, ça va être vraiment une grande réflexion à avoir.
Absolument. Est-ce que tu as toujours su que tu allais travailler avec ce genre de gens-là qui avaient des défis particuliers? Caroline adolescente, si tu avais la chance de lui parler aujourd'hui, est-ce que tu pourrais lui dire c'est ça que tu vas faire dans X années?
Je crois que j'ai toujours grandement apprécié voyager, collaborer ou être avec des gens qui sont différents de moi, peu importe la diversité. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression que ça a été une surprise. Je pense que quand je suis arrivée, puis j'ai eu une première expérience de travail, j'ai grandement apprécié la clientèle. Autant qu'il y avait une déficience intellectuelle ou quelqu'un qui avait un trouble du spectre de l'autisme. Je pense que cette façon-là, peut-être de voir ou de comprendre ou de percevoir la réalité, je trouve ça intéressant de le voir à travers les yeux de l'autre puis d'essayer de comprendre ce que l'autre vit aussi.
Ce qui t'intéresse, c'est de voir de l'angle qu'ils ont, eux, sur le regard, sur le monde qui les entoure. En fait, c'est intéressant.
Je pense que c'est une grande richesse en entreprise aussi, hein, au niveau de l'innovation, la diversité et puis... ça permet d'aller plus loin.
Complètement. Puis de ce que je vois de ça, c'est qu'il y aurait des leçons à donner à pas mal de gestionnaires, de pas mal d'entreprises, justement, de les amener à se mettre dans une posture différente pour voir à travers les yeux de leurs employés. C'est cool, ça.
En tout cas, je trouve que ton entreprise porte bien son nom. Regard Neuf.
Et voilà. tout est dans tout, comme on dit là chez nous.
Oui, une entrevue que j'avais vue de toi, Caroline, une des choses qui m'avait fascinée, c'est que tu expliquais que tu travaillais avec des codes couleurs.
J'avais dit ça,
c'est vrai, parce que t'as tellement d'implications. Puis moi, ça m'avait parlé, parce que moi, je réfléchis en couleurs, j'organise mon agenda en couleurs, puis j'étais comme, oh, wow, enfin, quelqu'un comme moi. Mais je pense que j'ai moins d'implications que toi. C'est quoi tes différentes... C'est pour ça que tantôt que je t'amenais sur... C'est quoi tes différentes implications, là? C'est quoi tes différentes couleurs dans ton agenda?
Ah, bien, c'est sûr. Les conseils d'administration, le temps bénévole, que ce soit mon temps personnel ou le temps pour Regard Neuf ou les autres contrats de consultation que je prends. Moi, ça m'aide, en fait, à voir où j'ai mis mon temps. Tu sais, j'ai mis combien de temps cette semaine à l'université ou je vais en mettre combien la semaine prochaine. Donc, quand je vois les plages horaires en rose, eh bien, ça m'aide, ça m'alimente, en fait, à voir le temps que je passe à chacun des endroits. Puis, des fois, je me rends compte qu'en mauve, j'ai pas pris beaucoup de temps personnel cette semaine. Donc, là, c'est de m'ajuster ou le sommeil.
Ah oui, tu mets ton sommeil dans l'agenda?
Ben, on le voit, là, tu sais, que des fois, il y a peut-être moins de sommeil.
Parce qu'il y a trop d'autres couleurs, en fait, c'est ça qui arrive.
Mais essentiellement, moi, c'est des repères. Puis, ça m'aide à visualiser rapidement c'est quoi ma semaine, mes rendez-vous. Donc, je suis très visuel, ça me permet vraiment de bien m'organiser.
OK. Donc, tous tes rendez-vous que tu prends là, dans la semaine prochaine là, sont dans ton agenda, puis sont
codés. Mon agenda papier. Donc, pour moi, je suis encore vraiment papier. On dirait que ça me permet de figer les informations et puis c'est très concret. Je le visualise vraiment très, très bien par la suite après.
Mais là, si ton rendez-vous change, tu passes du mauve au vert, tu fais ça comment?
Parce que j'ai les crayons magiques. Ils sont effaçables. Donc,
ça se passe. Il y avait un truc technique, là, me semble.
Et voilà.
OK. Organisation.
Ouais.
Ben, c'était surtout l'organisation puis la connaissance de soi. Quand je travaillais, je travaillais encore auprès des jeunes adultes, c'est les deux choses finalement qu'on travaillait le plus. Au niveau de l'organisation, as-tu calculé combien de temps ça te prenait dans ton transport? As-tu calculé ton temps en activité personnelle versus tes études, versus ton bénévolat, versus tes activités sportives, puis de voir bon ben où on peut faire un équilibre, qu'est-ce qui est encore nécessaire? Puis au niveau de la connaissance de soi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, c'est quoi tes plus grands rêves, pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui te motive? Moi, je crois que quand on pouvait échanger ça avec les étudiants, au niveau de la connaissance de soi, même chez les enfants, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes défauts? Je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ça les aide à mieux se connaître. Puis,
Mais tu vois, en technique d'impact, si je me trompe pas, là, un exercice que j'aimais beaucoup, c'était de prendre des verres en styrofoam, d'écrire, tu sais, famille, amis, puis là, d'avoir un verre plein d'eau, puis d'aller répartir l'eau dans les différents verres pour dire, ben, à qui je vais donner le plus de temps dans, tu sais, bon, combien de temps, puis là, à un moment donné, ben, ton verre étude, il est vide, fait que là, tu le remplis, mais là, il y en a plus pour ton verre travail ou jeu vidéo, puis comment j'équilibre mon temps.
Ben, c'est intéressant. On oui. peut pas mettre de couleur, parce que là, quand on mélange, après,
on peut virer au brun. mais moi, ce qui m'avait parlé beaucoup dans cet exercice-là, c'est qu'il y a pas beaucoup de temps, il y a pas beaucoup de gens, il y a pas beaucoup d'adultes qui prennent le temps de prendre conscience ou qui prennent une décision consciente de dire, ben moi là, voici combien de temps je vais mettre à ma famille, à mon travail, à mes amis. On le fait de notre mieux. On se lève le matin, on a nos tâches, on roule notre boss.
Effectivement, puis ce que je trouve qui est pas tout à fait évident, mais peut-être que la pandémie a aidé, c'est quand les deux parents travaillent à temps complet, puis les enfants, ouais. cette gestion-là, c'est énorme, tu sais, ça laisse pas beaucoup de temps après pour le temps personnel, le temps en couple, le temps avec les enfants, le magasinage, ensuite faire le ménage, donc c'est quand même, que ça soit l'homme ou la femme qui travaille, puis là, bon, il y a des enjeux de plafond de verre, il y a toutes sortes de choses, mais essentiellement, je trouve que c'est pas évident d'intégrer à la routine tous ces aspects-là.
Puis toi, ce que tu recommandes, dans le fond, c'est de prendre une décision consciente.
Oui.
Oui. Avec l'organisation. Puis l'autre, c'était la connaissance de soi, oui. ton autre axe.
Oui, absolument. Pour savoir, en fait, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont pas beaucoup d'expérience de travail ou qui ont pas nécessairement fait de stage. Et puis, il y a une façon de le savoir, tu sais, dans le fond, c'est de l'essayer.
Comment vois-tu le futur pour Regard Neuf dans 5 ans?
Dans 5 ans, on va avoir davantage développé le volet de consultation en emploi. En fait, ce que je fais avec Humain 8.
Donc, pour Humain vrai? 8. Humain ouais, 8.
Exactement. Humain 8. Humain 8, parce que le 8 représente l'infini. Puis il y a un infini d'individus, de personnalités, de compétences. Donc, ensemble, on est complémentaires. Continuer à développer cet aspect-là au niveau de l'emploi et de poursuivre également là, le développement des livres, des jeux, des conférences.
As-tu incorporé une autre entreprise?
Pour le moment, ça fait partie de Regard Neuf,
okay.
Mais éventuellement, probablement que j'aimerais que ça soit effectivement une entité à part entière.
Oh.
Donc, Regard Neuf est une entreprise...
Incorporée. Et en fait, j'ai incorporé l'entreprise parce que je faisais des ventes à l'international. Mm-hmm. J'avais besoin d'assurance aussi parce qu'on fait de la consultation. Ouais. Je pense qu'on était rendu à l'étape là, vraiment d'être une entité à part entière pour toutes les raisons.
Faites-vous l'édition vous-même?
Oui, exactement. Donc, on a tout le processus, on a l'équipe pour faire ça.
C'est quoi le plus gros défi parce que là, dans le fond, vous faites la conception, l'édition, la distribution. C'est quoi qui est le plus difficile pour toi dans
Je pense se faire connaître. Tu sais, vraiment s'assurer que tout le monde ait accès à nos services ou puisse connaître les services. Je pense de nos jours, il y a tellement d'informations partout, tout le temps.
Du bruit.
Oui, vraiment. Donc, se faire connaître, je pense que c'est un des grands défis. Là.
Dans les 6 ans, dans le fond, on est en 2021, depuis 2015, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour Regard Neuf?
Moi, je pense que le plus gros défi, ça a été le repositionnement lorsqu'il est arrivé la pandémie, parce okay. que ça, on l'avait vraiment pas vu venir. Ouais. Là, on n'avait ouais. pas fait plan B pour ça, puis la nappe.
Le plus beau moment, le moment le plus euphorique de Regard Neuf?
Je pense que c'est l'accumulation de tous ces moments-là avec les équipes les essais-erreurs, les faux rires. Je pense que une de mes forces, c'est de bien m'entourer. Ouais. Et puis, quand j'ai pas les compétences, ben, je fais pas semblant, là. Je vais vraiment chercher quelqu'un d'autre pour le faire parce que, ben, je perds moins mon temps, puis, c'est mieux, comme ça. Et c'est plus efficace, puis ça donne un meilleur résultat. Mais je pense que les gens avec qui j'ai travaillé à chaque fois, les nouvelles rencontres ou les nouveaux projets, c'est partir d'une idée, puis ensuite aller jusqu'à la création, la vente, puis le voir les gens l'utiliser, l'apprécier, puis voir que ça peut aider une famille. Tu sais, les guides, des fois, combien de fois on s'est fait dire merci, tu sais, enfin, son frère, il va comprendre, tu sais, c'est quoi sa réalité, ben oui. Puis pourquoi il réagit comme ça. Ou avec la marche des animaux, ou le jeu de la langue des signes, tu sais, pour des enfants qui avaient beaucoup de difficultés avec leur motricité, ben, ça a pu les aider à avoir une meilleure appréhension au niveau des crayons ou autre. Donc, je pense que ces succès-là, de voir les enfants évoluer puis apprécier les produits.
Est-ce que tu es capable de nous parler d'une histoire qui fait vraiment pop, là, qui dit « Vous avez fait un produit, ça a changé la vie de quelqu'un ou d'une famille? »
Je vais revenir avec Valérie, la conférencière qui a une déficience intellectuelle. Il y a une enfant qui ne voulait pas toucher au livre parce qu'elle pensait que c'était contagieux. Fait que finalement, Valérie
avait peur d'attraper
la déficience intellectuelle.
Oh.
Fait qu'essentiellement, après la conférence de Valérie, elle s'est rendue compte que finalement, tu sais, c'était pas contagieux, puis c'était un état, puis finalement, elle y a fait un gros câlin. Okay. Mais essentiellement, je pense que ça l'a aidé, cet enfant-là, du moins, à comprendre que la diversité, c'est correct, puis c'est important, puis c'est ça qui fait la beauté. Mais ça, c'est des exemples comme ça, on en a plusieurs dans les écoles à ce niveau-là.
J'imagine, puis c'est ça qui ramène vers le concret que tu disais tout à l'heure. De voir une conférence comme celle-là, de voir que les enfants ont changé, les parents d'enfants comprennent peut-être mieux leur propre enfant ou un neveu, une nièce, ça doit être fantastique. Il y a une part de moi qui est un peu jaloux, honnêtement, mais bravo.
Dans quel sens jaloux, François?
Ben, parfois, moi, le podcast n'est pas sur moi, mais je suis un peu plus scientifique de nature, fait que j'ai parfois de la difficulté moi-même à essayer de comprendre comment interagir avec une personne qui peut avoir un défi particulier. Et ce que je voyais de ton livre, j'y reviens tout à l'heure, c'est comme, oh, ça me serait très utile parce que je pourrais probablement lire tel état ou tel défi pour une personne. La meilleure façon, c'est de réagir comme ça parce que cette personne-là se sent probablement comme ça. Et moi, étant plutôt rationnel, ça serait parfait. C'est là que je voulais en arriver
avec cette histoire-là. Oui, parce que des fois, que ça soit visible ou non, par exemple, quelqu'un avec un trouble développemental du langage, un trouble d'apprentissage ou... dysphasie, ça change avec le temps, là. Essentiellement, cette personne-là peut avoir de la facilité à s'exprimer, mais avoir de la difficulté à comprendre. Alors qu'au contraire, elle peut avoir de la difficulté à s'exprimer, mais comprendre très bien.
Quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose aujourd'hui?
Ben, peut-être au niveau du développement international. On a vraiment des partenaires intéressants en France, que ça soit au niveau Ludosens, Whispery, Spirouette Édition, je prends en mis plusieurs, qui ont une ouverture à la diversité puis qui veulent aller plus loin, avec qui on fait des activités. Il y en a plusieurs de ceux-là qui viennent au Québec. Nous, on va en France. J'ai quand même développé un bon réseau en France, puis c'est très intéressant de pouvoir voyager. Je pense que c'est ce qui me manque le plus, en fait, de pouvoir voyager puis d'aller voir... tous mes partenaires là-bas, puis de créer des projets avec eux. Essentiellement...
Ça, c'est des partenaires que tu as créés à travers des collaborations académiques au départ, probablement?
Des collaborations, par exemple, au niveau des livres, ou des collaborations au niveau de cette diversité-là, l'inclusion de la diversité. Donc, on a encore des projets à venir, donc au niveau de l'emploi ou autre, pour favoriser l'intégration. Donc, j'ai bien hâte de retrouver tous mes autres partenaires aussi qui sont outre-mer.
On te le souhaite, mais on se le souhaite tous, en effet, de voyager.
Dernière question pour moi. Moi, je trouve que tu es beaucoup dans l'innovation sociale. Ta vision de ce qui devrait arriver prochainement en innovation sociale, qu'est-ce que notre société a besoin?
Je pense qu'il y a une tendance intéressante au niveau de l'ouverture de la diversité. Moi, je pense qu'il faut que ça continue. T'sais, au niveau des entreprises, au niveau des biens conscients, au niveau des indicateurs, on disait qu'on aimait les chiffres ici, mais au niveau de la diversité, au niveau des stratégies qu'on peut partager d'une organisation à une autre, puis au niveau de la flexibilité dans l'environnement de travail, dans les tâches. T'sais, dans le fond, les gens ont des compétences, sont bons dans certaines choses, leur santé évolue au fil du temps. Comment est-ce qu'on peut adapter ça? Comment on peut être plus souple dans les équipes et puis de redonner plus de pouvoir aux employés en fonction de leur force, de leur talent, de leurs compétences?
OK. Adaptatif.
Oui, être plus adaptatif. Ouais.
J'aime ça beaucoup. T'es très généreuse, Caroline.
Merci à vous autres pour votre écoute.
Écoute, merci. Vraiment très instructif. J'étais un peu sans voix cette dernière seconde parce que j'imaginais toutes les implications pour d'autres entreprises. On va laisser ça là. Merci encore une fois. Moi, j'ai appris beaucoup. Définitivement, tu as suscité mon intérêt pour en apprendre encore davantage. Longue vie à Rigueur 9, Humain 8, les autres OBNL.
Tournée éducative. Mieux comprendre la diversité.
Et tous les partenariats. Continuez, s'il vous plaît. Faites-nous progresser.
On va continuer à travailler ensemble.
Avec grand plaisir.
C'est ce qui conclut l'entrevue d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode de la première saison de Simplement audacieux, Eve et moi nous déplaçons vers MT Concept, où nous rencontrerons Émilie Turcotte, vice-présidente.
L'histoire d'Émilie est différente de celle des autres entrepreneurs présentés dans cette série d'entrevues, car il s'agit ici d'un projet de relève d'une entreprise familiale. En effet, elle et son frère ont repris l'entreprise familiale fondée il y a 25 ans. Ils ont abordé les défis contemporains avec une attitude entrepreneuriale, audacieuse et innovante. Il faut entendre comment, dès la première vague de la pandémie, ils ont utilisé leurs expertises en coupe de plastique pour produire des visières. Beaucoup de visières! Rejoignez-nous pour entendre quelles furent leurs autres bonnes idées et de quelle manière cette fratrie a mis leurs employés au centre de leur vision d'affaires. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast, partagez-le à votre entourage et écrivez-nous des commentaires. Nous aimerions également entendre vos suggestions d'entrepreneurs inspirants et audacieux pour nos prochains épisodes. Visitez notre site web à lavalinov.com dans la section « Équipe » pour nous rejoindre personnellement.
Vous pouvez écouter le podcast Simplement audacieux gratuitement sur le site web de Lavalinov ou encore là où vous avez écouté cet épisode. Simplement audacieux est une production de Lavalinov.
À la réalisation.
Vidéo Marketing Québec.
Au soutien logistique.
L'agence EMI.
À la musique.
Marc Gravel.
À l'infographie et au marketing.
HKD Design.
Merci à tous.